Les filles, vous m'entendez?
Yes, we hear you.
Please, I need help.
Pose de conne.
Allez. Una are to vous.
Hey, boys! Come save me!
We're gonna be fine.
Say it again.
Una are to vous.
We're gonna be fine.
Now, go wait.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
Le cinéma est la guerre, ou le cinéma est une guerre. Le rapprochement est spécieux, mais il va bien avec nos invités, auteurs de deux ouvrages, deux enquêtes passionnantes dans le cinéma, écrites et dessinées. Bonjour tout le monde, et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
La guerre et sa représentation au cinéma, vaste programme qu'il condense, si l'on peut dire, en 512 pages. Bonjour Jean-Pierre Andrevon.
Bonjour.
Votre encyclopédie éditée chez Vendémiaire démarre ainsi. Horrible en soi, écrivez-vous, la guerre est aussi un spectacle. De Méliès à Eastwood, tout seul, vous avez explosé les formes et les métamorphoses d'un genre inépuisable, le film de guerre. Une autre forme de combat, celui qu'a mené toute sa vie un certain Edouard Luntz pour faire du cinéma, une œuvre qui n'est même plus visible. Bonjour Julien Frey.
Bonjour.
Vous avez mené votre enquête sur ce cinéaste fascinant, allant jusqu'au bout du monde pour retrouver et voir ses films. Résultat, un émouvant ciné-trip, cet ouvrage dessiné par Nadar et édité chez Futuropolis, intitulé avec Edouard Luntz, le cinéaste des âmes inquiètes. Et enfin, nous évoquerons les nouvelles sorties ciné de la semaine entre le Groenland et Beyrouth, Bolen et Vekiali, c'est parti. Le dictateur Chaplin, tourné entre septembre 39 et mars 40, autrement dit in situ, la guerre en Europe, le génie d'un cinéaste qui utilise la satire et le burlesque pour dénoncer l'absurdité de la guerre. Celle-là et toutes les autres, en images et en fiction, recensées et commentées dans cette encyclopédie, La guerre au cinéma chez Vendémiaire. Jean-Pierre Andrevon, vous êtes né, si je puis dire, 2 ans avant la Seconde Guerre mondiale. Vous avez fait votre service militaire.
Mais pas avant la guerre de 14.
Non. Service militaire en Algérie jusqu'en 63. La guerre a rythmé votre vie. Votre parcours d'homme d'apparemment de gauche est militariste.
Militariste, non, pas du tout. Non, mais on peut parler de la guerre, justement, pour la dénoncer. Sauf que la guerre existe, il faut bien en parler. Il ne faut pas la cacher sous le manteau de Noé. On parle de ce qui existe et voilà. Je crois que c'est ce que j'ai voulu faire, en fait.
C'est quoi un bon film de guerre?
Un bon film de guerre, c'est un film qui vous prend aux tripes, là, et qui vous... Comme tout film, je veux dire, on peut dire ça de n'importe quel film, même celui qui se passe en chambre entre deux personnes. Mmh. Il faut que de la première à la dernière image, on soit accroché. Alors, c'est plus facile, évidemment, pour les films de guerre, où il y a des centaines ou des dizaines de milliers de combattants qui s'affrontent, des tripes qui volent, des têtes qui sautent. Et voilà, on a tous un côté pervers, je crois, nous, spectateurs.
Fascinés.
Hein, on a toujours été fascinés. Il n'y a qu'à voir, ce que j'en parle abondamment dans mon ouvrage, les Romains et les arènes et les combats de gladiateurs. J'adore les combats de gladiateurs au cinéma, bien entendu. Donc, le spectacle de la guerre a toujours été là. Et au XVIIIe siècle, les belles dames dans leurs carrosses montaient sur leurs collines pour regarder la bataille qui se passait dans la plaine à côté. Donc, la guerre a toujours été un spectacle. Et aujourd'hui, le spectacle, il est sur son petit écran de télé où on voit de la guerre toute la journée. Parce que des guerres, il y en a partout.
Critères pour figurer dans le livre, écrivez-vous, il y a des oubliés probable, des retraits volontaires. Vous avez écarté aussi des films qui n'entraient pas dans une stricte historicité. C'est quoi? Ça veut dire quoi?
On me dit souvent, est-ce que tu as parlé de la guerre des boutons? Est-ce que tu as parlé de la guerre du feu? Est-ce que tu as parlé de la guerre des étoiles? Non. J'ai voulu me concentrer sur les guerres véritables et les combats véritables, tout autant qu'on puisse les savoir si leur représentation au cinéma est juste ou pas. C'est ce que j'ai voulu faire, confronter la réalité, ou en tout cas ce qu'on en connaît. Alors on connaît mieux le 6 juin à l'aube que la bataille de Gaugamel, bien sûr, avec Alexandre le Grand, mais on en connaît quand même pas mal de choses. Et ce que j'ai voulu faire, c'est pas tant un ouvrage de cinéphile où je parlerai des cadrages, des plans, etc. C'est confronter l'histoire, ce qu'on en sait, ce que j'en sais, parce que j'ai bien étudié le sujet, je suis pas historien, hein, je m'empresse de le dire. Et puis ce qu'en a fait le cinéma, voilà, c'était le but de l'ouvrage.
Et ce qu'en a fait cet homme-là qui, mieux que lui, a filmé la guerre.
You know, you're saying that more than half my men will be killed. Aside from the inescapable fact that a good many of your men never left the trenches, there's the question of the troops' morale. Don't forget that.
The troops' morale.
Certainly. These executions will be a perfect tonic for the entire division. There are few things more fundamentally encouraging and stimulating than seeing someone else die.
Jean-Pierre Andrevon, vous reconnaissez cet extrait, je suppose?
Absolument pas, non, je parle anglais comme une vache portugaise, j'ai pas du tout reconnu.
Les Sentiers de la Gloire, Kubrick.
C'est Les Sentiers de la Gloire, Kubrick, ouais. Un film que j'aime que très moyennement.
Ah bon?
Contrairement à la plupart des cinéphiles, oui, tout à fait.
Pourquoi?
Tout à fait.
Pourquoi?
Il y a des séquences ou des scènes que j'aime pas du tout, comme celle de la chanteuse allemande qui fait pleurer les pioupiou français, alors que je crois que ça aurait pas été exactement le cas.
Ça c'est pour la véracité, mais sur les combats, sur les tranchées.
Non, mais tout à fait. C'est un film utile, mais si on
c'est
veut
quoi
parler.
C'est pas un film utile.
Un film utile, c'est un film qui désigne la guerre pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une horreur sans nom qui a aucune utilité pour personne et qui fait mourir tout le monde, quoi. Mais moi, je préfère King and Country de Lozay, par exemple, pour ce qui est des fusillés de la guerre de 14.
Ou Les Hommes contre de Rosie.
Ou Les Hommes contre de Rosie, très très beau film aussi. C'est vrai que j'ai des petits problèmes avec Kubrick, moi qui en fais des tonnes.
Et pourtant, tu disais qu'il a fait des films sur la guerre, Spartacus,
oui,
Les Sentiers, Barry Lyndon,
c'est très bien.
Full Metal Jacket.
Oui, mais j'en reviens au Sentier de la Gloire. La vision qu'a Kubrick des tranchées où un autobus passerait à l'aise, alors qu'on sait que les tranchées, il y avait 1,50 m de
large. Ça, c'est l'historien
qui parle. On avait de la boue jusqu'au nombril.
Là, c'est en revanche, Barry Lyndon,
oui.
Barry Lyndon, c'est semble-t-il
historiquement irréprochable.
Et ça n'a jamais été montré au cinéma de cette
façon-là. C'est la guerre en dentelle, dans toute son horreur,
oui,
en dentelle,
ça,
avec
en dentelle,
des guillemets, bien
ouais,
sûr, avec cette très longue avancée des tuniques rouges. Et puis, ceux qui sont en face, qui sont des Français, d'ailleurs, leur tirent dessus, ils tombent. Et quand les gens tombent,
portant,
au lieu de dire « écartez-vous », resserrez les rangs. Voilà, c'est l'absurdité de la guerre qui est tout à fait caractéristique dans ce film.
Pardon absolument. Pour cette question énorme, mais qui a le mieux, selon vous, filmé les combats? Alors,
il y a plein de gens, je veux dire, il y a beaucoup de films moi qui me restent en tête. Un que je cite très souvent parce qu'il est emblématique de la guerre de 14, c'est Les Croix de Bois, hein, de Raymond Bernard, d'après le roman de Roland Dorgelès. Et c'est un film qui a été fait quand même assez longtemps après, je crois qu'il a de 36, il me semble. Et qui montre la guerre non pas selon un point de vue critique, c'était trop tôt quand même, ce qu'on verra après sur la guerre d'Algérie ou la guerre du Vietnam, mais simplement avec cette patte humaine de comédiens comme Charles Vanel, qui avait réellement fait la guerre de 14, et là le film retranscrit de manière étonnante la fatigue, la peur, la boue, l'absurdité de la guerre. Et ce qu'on peut dire, ce que je tiens à dire sur les Croix de Bois, c'est que les combats ont été réalisés de façon tellement réaliste qu'aujourd'hui, dans certains docs télé, on passe des séquences des Croix de Bois en faisant croire que ça a été pris réellement pendant les combats.
Ouais, il y a des films où la guerre est présente sans qu'elle ne soit jamais montrée. Exemple.
J'avais tellement peur de ne pas te trouver. Je suis si heureuse d'être avec toi. Maintenant je ris parce que je me rends compte combien je suis bête quand je suis toute seule. J'ai parlé à maman de notre mariage. Elle m'a évidemment traitée de folle. Et puis ce soir, elle m'a interdit de te voir. Tu comprends, j'ai eu si peur. J'aime mieux partir n'importe où, ne plus revoir maman que de te perdre. Nous nous marierons en cachette.
Oh, tu sais maintenant, ça n'a plus d'importance. Nous avons même tout notre temps. Ce matin, j'ai reçu cette feuille de route. Et je dois partir pour 2 ans. Alors le mariage, on en reparlera plus tard. Avec ce qui se passe en Algérie en ce moment, je ne reviendrai pas d'ici longtemps.
Jean-Pierre Andrevon, Les Parapluies de Cherbourg, dit-on, est l'un des premiers films à évoquer la guerre d'Algérie, même si on est loin du scandale provoqué par Le Petit Soldat de Jean-Luc Godard. L'Algérie au centre des malheurs de Geneviève, l'héroïne dont le fiancé part à la guerre.
Oui, tout à fait, où il y a des films qui se passent pendant la guerre, d'autres films qui se passent à l'arrière, où on dit que c'est très dur. quand on disait ça pour la guerre de 14. Il y a Muriel de René qu'il faut pas oublier non
bien
plus.
Sûr. Hein.
Voilà.
Les parapluies, c'est, on dit, hein, c'est, ça sort en 64 et ça parle de 57 en termes de proximité.
Oui, oui, il y a eu très peu de films, effectivement, ou quasiment aucun fait pendant la guerre elle-même.
C'est ça.
Ça a commencé dans les années 70 avec Avoir 20 ans dans les ORS, hein, ou RAS de Boissé. Et puis quelques autres après. La guerre d'Algérie, c'était un sujet effectivement qui a traumatisé la société française, qui a causé des heurts violents jusqu'aux poches des généraux. Mais le fait que les films aient été tournés après ont permis justement ce regard critique qui n'aurait pas été possible pendant la guerre elle-même. Quoi.
Mais sur l'historicité, comme vous étiez témoin direct, là vous pouvez vraiment, c'est un terrain où vous pouvez comparer, voir la véracité, l'analyse, les interrogations.
Vous savez, les films de guerre, ils sont quand même assez réalistes parce qu'on fait pas un film de guerre n'importe comment. Je veux dire, les réalisateurs, les producteurs, les scénaristes se renseignent, se documentent avec des acteurs qui sont encore vivants, souvent, à part si c'est Jeanne d'Arc, évidemment. Mais je connais pas de films, moi, aussi bien sur la guerre d'Algérie que sur la guerre du Vietnam, qui sont les guerres les plus horribles et les plus proches de nous, et avec le plus de morts, où il y a des grosses fautes, quoi. On peut avoir une optique effectivement l'une ou l'autre, mais il n'y a pas de... Non, je ne connais pas de film qui est déformé à ce point-là les événements.
Merci pour cette transition par rapport au Vietnam, puisque le Vietnam au cinéma, énorme dossier, beaucoup de films dénoncent le conflit, et au milieu, un film, Les Bérets Verts, de Ray Kellogg et John Wayne, extrait, justification de la torture, dialogue entre un reporter et le colonel Kirby, incarné par John Wayne.
Voilà le rôle que vous jouez, vous donnez votre caution à la torture dans ce pays.
C'est ça que vous allez raconter au public.
Ce que je raconterai au public, c'est la vérité telle que je viens de la voir.
Ce que vous venez de voir, ce n'était rien.
Ce genre de barbarie, ce n'est pas rien.
Cet homme repérait les objectifs pour que les mortiers puissent nous écraser.
Si c'est vrai, il fallait le juger régulièrement.
Ici, le seul jugement connu, c'est une balle. Je veux que vous conserviez ce briquet. Il appartenait à un spécialiste du service de santé qui faisait partie de l'équipe du capitaine Coleman. Il y a environ un mois, il rentre au camp après être allé accoucher la femme d'un montagnard et... Bref, ses copains l'ont retrouvé à peu près 3 kilomètres du camp. Mutilé, méconnaissable. Sa femme elle-même ne l'aurait pas reconnu. Et ce Viet était parmi ceux qui ont fait ça.
Ça n'a pas de rapport avec ce qui a lieu ici.
Dites ça au capitaine Coleman. Et criez-le très fort. Parce que le cimetière militaire est à l'autre bout du monde.
Les Bérets Verts, vous écrivez, le film n'est pas seulement mauvais, c'est un désastre.
Oui, mais c'est un désastre par sa mise en scène, parce que John Wayne, qui avait fait Alamo, qui est un film magnifique, là, il n'a pas réussi, quoi. Mais ce film est intéressant malgré tout, parce que c'est le seul film, oui, effectivement, de fiction, qui a été tourné pendant la guerre, hein, en 68, je crois, si je me souviens bien, 67-68. Là, j'accuse pas du tout John Wayne d'avoir pris le parti de l'intervention américaine au Vietnam. C'était son droit, hein. C'était un républicain, bon d'accord, c'est un homme de droite. Il aurait pu faire un très bon film. Il a fait un film exécrable, parce qu'on n'y croit pas une minute. Il a tourné ça aux environs de Los Angeles, je veux dire, dans un décor qui est absolument pas vietnamien. Je veux dire, tout est catastrophique dans ce film. C'est dommage, parce qu'on aurait eu un bon film qui apportait le point de vue opposé de tous les films qui ont suivi, comme Platoon d'Oliver Stone. Ça aurait été intéressant. Malheureusement, là, c'est tellement mauvais qu'on n'a pas de point de comparaison.
Vous écrivez des détails qui est très intéressant. Un Wayne, comme on sait, républicain, donc pas vraiment progressiste, après qu'il lui fait en 66, un voyage au Vietnam en guerre pour y rencontrer les hommes du 7e régiment de marine et qui déclara notamment « Je veux montrer à ceux qui sont restés au pays ce que ces hommes supportent, leur héroïsme ». Ça y est, et puis plus l'anticommunisme.
Oui, absolument. Non, mais c'est un fait qu'un soldat perdu dans la jungle, dans une guerre qu'il n'a pas voulu faire et qu'il ne comprend pas, il souffre, quelle que soit son idéologie, quelle que soit l'opinion qu'il a, hein. Mais enfin, il vaut mieux voir quand même le film d'Oliver Stone, qui lui aussi a été au Vietnam et qui s'est engagé pour, dit-il, voir ce qui se passait vraiment. Là, c'est un film remarquable pour moi, beaucoup plus qu'Apocalypse Now, dont vous allez peut-être parler.
Non, c'est vous qui en parlez.
Ah oui, c'est moi, pardon.
c'est pas
mais il y a des films comme ça que tout le monde adore. Les Sentiers de la Gloire est un exemple. Apocalypse, je vais y arriver.
Vous l'aimez tellement pas, vous n'arrivez pas à dire son titre.
C'est un film très critiquable, non pas en tant qu'œuvre cinématographique, mais en tant que film sur la guerre du Vietnam, parce que c'est pas un film sur la guerre du Vietnam.
Oui, on voit pas le Vietnam, en fait. On voit pas cette réalité historique-là qui est écrite.
Et vous vouliez voir un film sur la guerre du Vietnam? et pas sur un homme qui devient fou au fond de la jungle.
Ben, ça m'intéresse pas trop. Non, les cas particuliers extrêmes comme celui du colonel Kurtz, bon, c'est Conrad hein, de toute façon hein, qui a inventé le personnage. Ça rend pas compte d'un sujet qu'il fallait traiter pour ce qu'il était, parce qu'encore une fois, c'est une guerre épouvantable, horrible, qui a coûté je sais pas combien de millions de morts parmi les Vietnamiens, beaucoup moins parmi les Américains, 60 000 je crois, il me semble. Voilà, comme il y a beaucoup d'autres films qui ont été faits après, qui rendent compte de cette guerre, dont un de Brian De Palma, que j'aime beaucoup, j'ai oublié.
Casualty of War.
Voilà.
Ouais.
Sur un viol, le meurtre et le viol d'une jeune vietnamienne, et qui est très, très prenant, et qui rend compte de ce qui se passait réellement, mais dans toutes les guerres, parce que dans toutes les guerres, on tue, mais on viole aussi, ça, c'est, hein, pas besoin de faire un dessin.
Et il y a aussi abordé, bien sûr, l'absurdité de la guerre à travers des films très, 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 moi, que je trouve remarquables, notamment le Kevin Reynolds sur la bête de guerre en Afghanistan, sur l'absurdité. Pareil, No Man's Land de Danny Stanovich, qui a eu l'Oscar, d'ailleurs. Et le plus cynique et le plus drôle sur l'Irak, c'est Les Rois du Désert.
Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, avec le parchemin qu'on retire du fondement d'un combattant.
Oui.
Et voilà.
C'est bien dit.
Non, non, c'est très bien vu. Oui, oui, tout à fait. Oui. Mais maintenant, on peut parler de la guerre, bon, à moins qu'il y ait des phénomènes de censure qui nous tombent sur la tête, ce qui commence d'ailleurs. On peut parler de la guerre exactement comme on veut. Et tous les films qui ont rendu compte de la guerre du Golfe, ou voilà, la guerre de tempête du désert, sont à la fois très réalistes et puis en même temps avec un petit recul qui permet d'être drôle, comme c'est le cas des Rois du Désert.
Tout cela et tellement d'autres choses est dans cette encyclopédie de la guerre au cinéma et à la télévision. Jean-Pierre Andrevon, chez Vendémiaire, remarquable travail.
Hautement recommandable, oui.
Seul là-dessus, mais moi je suis complètement épaté.
Merci.
Je n'ai pas l'impression d'être arrivé où que ce soit. Je ne sais pas si j'y arriverai un jour, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont contents d'être arrivés où ils sont arrivés. J'espère que je ne le serai jamais, parce que si j'étais content d'être arrivé quelque part, j'irai plus nulle part.
Ce document sonore date de 1966. Édouard Luns, sur France Culture, était interviewé à l'occasion de la sortie des Cœurs Verts, son premier long métrage.
Et oui, c'est pas libéré, là.
Et le premier film, surtout, à s'intéresser à la jeunesse des banlieues, ce qu'on appelle communément les blousons noirs. Édouard Luns, un personnage fascinant, un homme qui s'est battu toute sa vie pour faire du cinéma. Julien Frey, vous l'avez rencontré une seule fois, en 98. Vous étiez étudiant en cinéma et vous cherchiez un producteur.
Oui, c'est ça. Moi, je cherchais un producteur pour mon court-métrage. Et j'avais envoyé mon scénario à pas mal de producteurs. Et c'est lui qui m'a répondu. Je vois arriver un monsieur qui ressemble pas du tout à la caricature que j'avais du nabab.
Il n'y a pas de cigare.
Non, voilà, c'est ça.
Il m'a mis tout ça, mais pas pour d'autres
oui,
problèmes.
Il était déjà abîmé quand je l'ai vu arriver, et il m'a tout de suite dit que il avait pas produit de film depuis très longtemps, mais qu'il comptait sur mon scénario pour relancer sa société de production, Sodor Film. Et moi, il me dit même pas au départ qu'il est réalisateur. C'est en discutant un petit peu avec lui qu'il commence à me parler d'une histoire avec Daryl Zanuck et d'un procès. Et en même temps, il me dit « Vous avez peut-être vu mes films parce que je suis allé au Festival de Cannes ». Enfin, tout ça est très brouillon. Et puis,
Pensez qu'il vous ment un peu, qu'il vous raconte.
Oui, ouais. Oui. Je me dis que de toute façon, je ferai jamais un film avec ce producteur. Et il me laisse un message, il me demande de le rappeler, je le rappelle jamais. Et quelques années plus tard, je me rends compte, par hasard, je suis à une formation de scénariste et on me parle du cas Édouard Luns.
Oui.
Et la formatrice, la scénariste me dit « Mais est-ce que vous connaissez le cas Édouard Luns ?» Et là, je fais « Bon, d'accord. » Et je souris, elle me dit « Bah alors, tu connais l'histoire ?» Je lui dis « Un peu. » Et en fait, elle me la raconte et je sais pas du tout que Édouard Luns a eu effectivement un procès retentissant avec la 20th Century Fox et Daryl Zanuck. Qui a coupé
son film à la hache.
Oui, voilà, c'est-à-dire que le tournage qui devait coûter 150 000 $ a coûté 2 millions de dollars à Zanuck et qu'il était pas très content et que le montage de 3 heures de Luns ne lui plaisait pas. Et ces deux conceptions du cinéma qui se sont rapidement opposées, celle de Luns, conception européenne, ouais. avec le réalisateur qui est l'artiste, l'auteur.
Et qui a le Final Cut.
Voilà, mmh. et la conception américaine de Zanuck, qui lui avait l'habitude de remonter les films des plus grands réalisateurs américains comme Ford. Donc il ne voyait pas le problème de tailler dans la copie d'un petit réalisateur français. Et il s'est heurté à Luntz. Et c'est Luntz qui intente un procès pour que le film soit diffusé dans la version initiale.
Donc en fait, vous apprenez cette histoire après l'avoir tellement sommairement voilà. rencontré, et après, cet homme et ce cinéaste deviennent obsessionnels pour vous.
Oui, alors, c'est-à-dire que...
Il y a du remords, hein.
Oui,
bien sûr, parce que moi, je suis un étudiant en cinéma, et un ancien étudiant en cinéma, et je suis passé à côté de ce monsieur qui aurait eu tellement de choses à me raconter. Je le comprends au moment où on me raconte l'histoire du procès, et puis je le comprends... encore un peu plus tard quand j'essaye de voir les films et que là je comprends que les films sont devenus invisibles. Pas seulement celui qui a été détruit par la Fox.
Grabuge.
Le Grabuge, oui. Mais aussi les autres films qui sont devenus introuvables. Et une fois, par hasard encore, à la télévision, je vois un extrait d'un film d'Edouard Luntz avec Bernard Kouchner qui fait une apparition. Et je me dis, qu'est-ce que c'est que ce hasard? Donc on montre à Kouchner qu'il a fait de la figuration quand il était jeune. Il joue le rôle d'un barman dans Le Dernier Saut. Et je me dis, bon, d'accord, j'essaye de voir le film, j'y arrive pas. Et une autre fois, dans une brocante, je vois un disque. Qui est la bande originale des Cœurs Verts, avec marqué en grand une musique de Serge Gainsbourg et en petit un film d'Edouard Luntz. Et là, je me dis, bon, Julien, tu vas aller au bout du truc et cette fois, tu vas pas passer à côté des films, tu vas les voir. Et c'est là que je comprends que ça va être long.
Et là, vous racontez en fait ce merveilleux roman graphique avec Edouard Luntz, le cinéaste des âmes inquiètes, avec Nadar au crayon, enfin la plume, édité chez Futuropolis. Vous racontez pourquoi
un roman graphique. Moi, en fait, j'ai fait des études de cinéma. Après, je me suis orienté vers l'écriture pour la télévision. Donc, mon écriture, c'est scénario. J'écris du scénario. J'aurais été incapable d'écrire un roman, par exemple, ou un essai. Et après, en cinéma, ce type d'histoire avec...
Vous écrivez en images.
Voilà, j'écris en images, exactement. Donc après, se poser la question du cinéma ou de la bande dessinée. Et la bande dessinée, c'est une réelle liberté par rapport au cinéma qui coûte très cher, avec beaucoup d'intervenants, des problèmes. Je pense qu'il n'y a pas que Luntz qui a compris ça à ses dépens. Et aujourd'hui, faire un film avec cette histoire-là, ça aurait été juste impossible. Ou alors, il aurait fallu beaucoup d'argent. Et souvent, beaucoup d'argent, c'est aussi beaucoup de problèmes. Donc moi, j'étais très content de faire une bande dessinée à deux avec le dessinateur.
Nous, on n'a pas de crayon, mais on a des micros et on va écouter justement à propos des Cœurs Verts, donc qui est son premier long métrage. Ouais. Après, on va résumer très sommairement. Après leur sortie de prison, d'ailleurs, c'est vous qui l'écrivez, deux délinquants retrouvent famille et amis et tentent de reprendre une vie normale. C'est le premier film qui parle effectivement des jeunes en banlieue à l'époque. Et c'est assez étonnant de le revoir maintenant. On va écouter Luntz qui parle des Cœurs Verts et ensuite un extrait des Cœurs Verts.
Je crois qu'il y a un conflit très grave et qui va d'ailleurs en s'accentuant. D'abord, ça va en s'accentuant parce que la poussée démographique est encore beaucoup plus forte actuellement. Il y a beaucoup plus de jeunes. Et j'ai l'impression que les gens acceptent difficilement les jeunes qui les poussent.
Oui.
Les gens acceptent mal de vieillir. Ils acceptent mal d'arriver à un certain âge sans avoir eu tout ce qu'ils auraient voulu avoir. Et au lieu d'accepter une fois pour toutes de se regarder en face et de prendre leur propre responsabilité, de penser qu'ils en sont peut-être responsables de cet échec, eh bien, ils en veulent simplement aux jeunes qui, peut-être d'une certaine manière, ont quelque chose qu'ils auraient voulu avoir et qu'ils n'ont jamais pu avoir. En particulier une certaine liberté, peut-être acquise d'ailleurs assez durement, assez chèrement. Enfin, je sais pas, il y a une chose absurde, vous comprenez, par exemple, les cheveux longs.
Oui.
Il semble qu'on reproche terriblement aux jeunes d'avoir les cheveux longs. Mais c'est idiot parce que pendant des générations et des générations, tous nos grands-parents ont eu les cheveux longs. On n'a jamais douté de leur virilité. Alors je crois que, vous comprenez, le film, c'est un film sur l'adolescence. Avant tout. C'est un film sur les blousons noirs, vous allez dire. Non, je pense qu'avant tout, c'est un film sur l'adolescence. Pour moi, les blousons noirs, c'est un épiphénomène, mais qui est un archétype, peut-être, d'une certaine manière, de la révolte qu'est l'adolescence en principe et a priori.
Moi, je trouve que les flics, ça sert pour la circulation. Il devrait y en avoir juste pour régler les feux rouges et faire passer les voitures. Le restant... Il y en a trop.
C'est dégueulasse parce qu'on peut même pas se balader dans la rue sans que tu nous demandes les faces alors.
Simplement parce qu'on a des cheveux un peu trop longs,
ouais.
Des blue jeans, ça leur plaît pas, des ceinturons, des moumous. Ouais. Ils trouvent qu'on a un genre bizarre.
À chaque fois qu'ils nous voient, ils ont peur qu'on attaque les gens dans la rue.
Il est incroyable ce film, Julien, parce qu'il est à la fois réaliste et poétique, et il nous raconte la France de cette époque-là, celle qu'on n'a pas vue au cinéma.
Qu'on n'a pas encore vue au cinéma à cette époque, effectivement, c'est le premier à aller voir la banlieue, en fait, Édouard Luntz, à une époque où on ne parle pas encore de cinéma de banlieue.
Mais d'aller chercher ses acteurs là-bas.
Bien sûr, et il prend des comédiens qui ne sont pas des professionnels, qui pour certains sont des gens qui sortent de prison, et il ne les prend pas comme des voyous ou des blousons noirs, parce qu'effectivement, il n'aimait pas ce terme-là. Ce sont des jeunes, des adolescents, et lui, il a envie de parler avec eux, donc il leur demande de raconter leur histoire, et après, à partir de cette histoire, il bâtit son film, son scénario, et en particulier avec l'histoire de Zim, Gérard Zimmermann, et
que
c'est
vous
compliqué.
Dans votre,
que je retrouve aujourd'hui et qui me dit Édouard, il a changé ma vie, et c'est vrai qu'Édouard a changé sa vie parce que prendre plusieurs non-comédiens et leur donner comme ça un film à faire alors qu'ils sortent de prison, pour eux c'était juste énorme. Alors certains c'était compliqué parce que certains se sont barrés pendant le tournage et d'autres sont restés. Et d'autres ont saisi leur chance, et parmi la bande des Cœurs Verts, certains sont rentrés dans le cinéma et ils sont bien restés, sont devenus comédiens. On parle de Zim qui est devenu comédien, qui a joué avec Berry, Eustache et d'autres, mais aussi Monique Prime qui est devenue monteuse, et notamment la monteuse de Jean-Jacques Benex.
Et avec une thématique incroyablement moderne qui est le consentement féminin aux avances masculines,
qui traversent
le film, et avec des discours d'une résonance incroyable.
Et d'une violence absolue, parce qu'ils ne se rendent pas du tout compte de ce qu'ils font en le faisant.
Il y a une sorte de viol collectif.
Viol collectif, ils ne s'en rendent même pas compte. Mmh. Et la violence, la séquence est assez impressionnante parce qu'il n'y a pas de jugement vraiment. Il aurait pu, comme souvent les cinéastes font, punir.
Non,
c'est pas le cas. Et malheureusement,
les deux points de vue sont exposés, de façon très égale.
Et malheureusement, à l'époque, j'en ai reparlé avec Zim, justement de cette séquence qui est sans doute la plus violente du film. Ouais. Il m'a dit, mais à l'époque, ça se passait comme ça. Les jeunes se rendaient pas compte de ce qu'ils faisaient. Je sais même pas si la fille elle se rendait compte de la gravité de ce qui était en train de se passer. Enfin, c'était vraiment une autre époque. En tout cas, on n'en parlait pas. C'était pas comme aujourd'hui.
C'est un film que Les Cœurs Verts, donc, d'Edouard Luntz, c'est un film qu'a regardé, par exemple, j'ai lu ça quelque part, Kassovitz, avant de réaliser La Haine.
Oui, bien sûr. En fait, le père de Kassovitz, Peter Kassovitz, a travaillé avec Edouard Luntz sur Enfants des courants d'air et sur Les Cœurs Verts aussi. Et Mathieu Kassovitz a vu le film. Il y a de fortes similitudes entre les deux films. Alors, il faudrait lui poser la question à lui. Moi, je veux pas répondre à la place de Kassovitz, mais je pense qu'il a été assez inspiré par le film, comme il avait été inspiré par Spike Lee et Nola Darling pour faire son premier film Métis. Et il y a des séquences, notamment. Enfin, de toute façon, c'est à peu près la même histoire. Ce qui change, c'est que les personnages ne sont pas les mêmes, ne viennent pas du même milieu, mais ça reste trois jeunes de banlieue qui essayent d'aller à Paris, qui n'ont pas de boulot et qui aimeraient en avoir et qui n'arrivent pas à trouver leur place dans la société parisienne et qui sont voués à l'échec dès le début et qui retrouvent la police à tous les coins de rue.
Pour les auditeurs qui nous écoutent et qui auraient envie de voir Les Cœurs Verts, comment faire?
Ah, alors si les auditeurs sont lyonnais, ils ont de la chance, parce que lundi 4...
ils ont de la chance d'être lyonnais, d'abord.
Lundi 4 juin.
Lundi 4 juin au Comédia, j'espère que je n'écorche pas le nom du
Comédia,
cinéma.
Comédia, c'est ça.
Il y a pour la première fois une projection du film restauré.
Alors courez-y.
Voilà. Et si vous n'êtes pas lyonnais, vous pouvez toujours acheter le DVD du film qui est enfin sorti. Le film n'était pas disponible et pour la première fois, il est édité en DVD.
Ah bon? Vous avez le nom de l'éditeur? Parce que nous, on n'a pas.
C'est René Château.
On va écouter.
Affiction généralisée. Oui.
Voilà. Dans ce film, il y a un dancing, une scène incroyable de dancing avec une musique signée Gainsbourg déjà 2 ans avant.
Mmh. se paye la prochaine?
Oui, d'accord.
Tu permets, j'avais un ticket pour la prochaine. J'ai priorité.
Julien Frey, que le Zim en question était très fier d'avoir fait la scène du slow sur Gainsbourg, qui allait devenir
à son bardo.
Bah, être le premier à avoir dansé sur Je t'aime moi non plus, c'est classe, c'est un slow.
La chanson n'existait pas à l'époque.
Et hein, non, c'est-à-dire que Gainsbourg est engagé par Lunds pour faire la musique du film, et puis dans un studio d'enregistrement, il commence à jouer avec Colombier et il trouve cet air. Et 2 ans plus tard, il réutilise la musique pour faire Je t'aime moi non plus.
Bon, c'est pas le seul film de Lunds, il y en a d'autres. En 1970, il y a le dernier saut.
Ouais.
En 71, L'humeur vagabonde, et dans lequel Michel Bouquet incarne plusieurs rôles.
Incroyable.
Lequel, Michel Bouquet, que vous avez rencontré et dont vous racontez l'entretien avec lui dans ce
livre. Oui. C'est une très belle rencontre, Michel Bouquet. Et très vite, il me dit qu'Edouard Lunds a beaucoup compté pour lui, et il me dit beaucoup plus que ce que j'attendais, c'est-à-dire il me dit que c'est avec Jean Grémillon le réalisateur qui lui a donné ses plus beaux rôles. Et quand on connaît la carrière de Michel Bouquet, il m'a dit oui, c'était tellement ambigu, avec son petit sourire malicieux, il me dit c'était tellement agréable de jouer un commissaire aussi ambigu, parce qu'en fait le commissaire à un moment donné il a plus envie d'arrêter l'assassin, il a envie de devenir son ami. Donc ça, Michel Bouquet, ça lui a beaucoup plu, peut-être plus que d'autres films qui ont bercé mon enfance. Et donc cette rencontre avec Michel Bouquet a été très très belle, effectivement.
En fait, ce qui a cassé Edouard Lunds, c'est le procès avec Zanuck après Les Cœurs Verts.
Après le grabuge. Oui, le procès a duré 3 ans.
Il est un peu exagéré aussi, Lunds, sur le tournage.
Mais Lunds, c'était quelqu'un d'excessif.
Cocaïnoman.
Oui. Il aimait bien la vie.
Et la nuit.
Il a abusé de pas mal de choses. Et il était, il faisait beaucoup la fête la nuit, effectivement. Après, est-ce que c'est le procès, il s'est défendu tout seul. Il a pas pris d'avocat. Contre la 20th Century Fox, il prend pas d'avocat, il y va tout seul. Et il se défend très bien. Et il gagne. Le problème, c'est que s'il gagne son procès, il perd son film. Et ça doit rendre dingue. Et au jour d'aujourd'hui, on sait toujours pas pourquoi le film est invisible. Pourquoi la 20th Century Fox a récupéré les copies un peu partout, et notamment au CNC. C'est incroyable quand même, un film. Alors des fois, il y a des films qui sont pas déposés au CNC, mais un film qui a été récupéré au CNC. On reprend la copie, et toutes les copies,
Vous dites que la Cinémathèque en aurait un quand même, alors, qu'elle veut pas montrer.
La Cinémathèque...
française.
J'appelle la Cinémathèque, je fais le numéro que je trouve sur Internet, je demande s'il y a des films d'Edouard Lutz, ils me disent qui ça? Ils savent pas du tout.
Vous pensez qu'il y en a un, au moins?
Oui, parce qu'on me l'a dit, parce que j'ai enquêté et que j'ai insisté. Mais il a fallu être très très lourd pour avoir les informations. Et en fait, c'est ce que j'ai compris, ce que quelqu'un m'a dit après. Dans la bande dessinée, on a été obligé de dessiner la personne en yokai parce qu'elle voulait pas être qu'on sache qui elle était. Donc elle m'a dit que où étaient les films. Je veux dire, on parle de pas d'affaires d'État, on parle de cinéma. Ouais. Donc normalement, ça devrait être plus facile.
Bon, cette incroyable histoire, cette quête magnifique, merveilleuse, humaine, émouvante, et dont avec Edouard Lunds, le cinéaste des âmes inquiètes, Nadar et Julien Frey, donc chez Futuropolis.
Très bel album chez Futuropolis.
Et on rappelle l'encyclopédie de la guerre au cinéma, également. Jean-Pierre Andrevon chez Vendémia. Vous restez tous les deux avec nous avant de se retrouver pour les sorties. Eh bien, ce petit hommage, elle a eu 90 ans cette semaine, Agnès, la grande Agnès Varda, et son œil toujours attentif.
J'ai des yeux tenaces et j'ai des yeux heureux. J'ai des yeux qui aiment trouver la surprise. Je suis pas fouineuse, c'est pas ça, mais j'ai l'œil qui a envie de trouver des surprises et qui a envie de s'amuser. L'observation, si vous voulez, qu'on peut faire en regardant, elle amène souvent à des réflexions pleines d'humour et de drôlerie. Et quand on regarde les gens, c'est des fois, évidemment que c'est des fois atroce et pathétique aussi, mais souvent c'est rigolo d'observer. Vous savez, créer, c'est trouver un... pas un sens, mais trouver une manière de mettre ensemble les choses qui nous arrivent de tous les côtés. Et je ne veux pas dire que ce qui nous arrive est toujours rigolo, et même c'est plutôt pas rigolo. Si on voit la situation mondiale aussi, on voit même les choses autour de soi, ou les gens qu'on connaît, les maladies, les morts, tout ce qu'on peut dire. Il faut bien survivre dans une, relative énergie de vivre. Et moi, l'énergie de vivre, je la trouve en faisant du cinéma.
Slipping up, look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Look how I'm living up. Police be tripping up. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is Gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah.
Yeah,
I'm so dull like, yeah. We gon' blow like, yeah. Slipping up, look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up.
Laurent, on va parler des nouveaux films.
Mais volontiers, Christine, volontiers.
On va commencer par Je vais mieux de Jean-Pierre Améris avec Eric Almosnino et Harry Habitant. Un quinquagénaire est victime d'un mal de dos fulgurant. Tous les médecins, radiologues, ostéopathes du monde ne peuvent rien pour lui. La racine de son mal est psychologique. C'est adapté du roman du même nom écrit par un certain David Fuenquinos.
Oui, ça pourrait, le film pourrait s'appeler J'en ai plein le dos, par exemple. Voilà.
Oui,
oui bien sûr. Mais c'est ça, hein. En même temps, c'est ça le sujet du film. Faut l'assumer.
Ça fait rire, Julien.
Ben voilà, au moins quelqu'un qui rit. Non, on est un peu triste quand même pour Jean-Pierre Améris, qu'on aime bien, qui est un cinéaste sympathique, talentueux. Mais ça fait quand même quelques films qui se perdent dans des choses assez convenues, assez convenables, avec un univers qui est tendre, qui est gentil, qui est bienveillant. Et si on est mauvaise langue, on finit par dire qu'il est niaiseux. Alors oui, tout ça, ça manque singulièrement de piquant, de vif, de sel, de poivre. Bref, un peu de choses qui remuent. Elmosnino est formidable. Ça, c'est pas le, il n'est pas en cause et il l'est souvent et c'est le cas ici. Mais franchement, on aimerait que Améris insuffle un peu plus de mordant dans son cinéma.
Retour à Bolène de Saïd Amiche, premier film donc signé par ce jeune producteur, tourné avec un budget minime. Nassim, un trentenaire franco-marocain, désormais installé à Abu Dhabi avec sa fiancée américaine, revient avec elle à Bolène, Vaucluse, où il n'est pas retourné depuis des années, où vit sa famille à l'occasion des fiançailles de sa sœur. Bolène, une ville qui a basculé dans l'extrême, évoquée notamment à travers une scène de retrouvailles avec un ex-prof, ex de gauche, qui a, comme dit le frère de Nassim, fait le tour par derrière. D'autres rencontres avec d'anciens potes, son demi-frère, ses sœurs évoquent et soulignent la distance creusée entre lui et les autres, et surtout son arrogance, son égoïsme et sa vulnérabilité aussi. Je suppose, Laurent, je ne sais pas si ce film vous a plu, parce qu'il enfonce, c'est vrai, quelques portes ouvertes, c'est le risque, mais la démarche, je trouve, est extrêmement sincère.
Oui, la démarche est sincère, elle est comparable à celle de Didier Ribon qui a fait Retour à Reims, elle est comparable à celle de, ça c'est pour la littérature, ou à, on peut penser aussi à Eddie Bellegueule, et en cinéma, on pense forcément, mais la comparaison est là, c'est pas à l'avantage de Retour à Bolène, de Retour à Forbach, de Régis Soder qu'on avait reçu à ce micro et qui est un très très beau film. Là, le souci, c'est quand même que 1h07 secondes chrono pour faire le tour de toutes ces questions-là, qui sont au centre de la question, des questions politiques et sociales en France en ce moment, c'est-à-dire la religion, l'éducation, l'insertion, la ville, etc. L'extrême droite, bien sûr.
Certaines scènes les symbolisent bien, ces questions-là. Il n'y a pas besoin d'un non plus d'approfondir.
Oui, enfin, mais comme vous le disiez, il y a quand même pas un certain nombre de clichés de portes ouvertes qu'on aurait aimé refermer avant et surtout un peu plus de complexité. Je suis pas sûr que le personnage de l'épouse américaine soit très intéressant de ce point de vue-là et ne perturbe pas le jeu. Mais voilà, donc c'est un film, ceci étant, hautement recommandable pour les réalités qu'il montre. Oui. On attend avec impatience le second film de ce réalisateur.
Et j'aime beaucoup son acteur aussi. Opération Beyrouth de Brad Anderson. Le contexte historique, donc le climat entre la prise d'otage de Munich au JO et à la veille de l'intervention militaire israélienne au Liban en 82. L'histoire donc de ce diplomate américain en poste à Beyrouth qui, après un choc terrible dont on ne parlera pas, est reparti aux États-Unis et a sombré dans l'alcool. Il est rappelé au Liban pour aider à la libération d'un ancien collègue, agent de la CIA, et se retrouve plongé dans un jeu politique très trouble. Le scénario est signé Tony Gilroy, l'auteur de Jason Bourne. La réalisation est à l'exact inverse d'un scénario complexe et élaboré. Elle est classique, sans relief. Et ce, malgré deux acteurs plutôt convaincants, Rosamund Pike, l'héroïne entre autres de Gone Girl, et surtout John Hamm, le Don Draper de Mad Men. Finalement, trauma et alcool lui vont très bien au teint. Mais ce n'est pas suffisant. Et une fois n'est pas coutume, Opération Beyrouth aurait très bien pu être une bonne série avec un grand showrunner.
Oui, avec un plan final quand même sur le drapeau américain, hein. Tout va bien, l'ordre règne à Beyrouth, donc c'est un peu ça, quoi. Il y en a un peu ras-le-bol quand même de tous ces combattants arabes décrits comme un peu sales, un peu puants, un peu mal ratés, tout ça, et puis en face d'eux, cet Occident triomphant et très bien propre sur lui, voilà.
Une année polaire de Samuel Collardet, sujet l'intégration d'un jeune instit danois dans un village inuit de 80 habitants au fin fond du Groenland. Démarche documentaire, limite ethno, avec un véritable instit que Collardet a suivi, c'est sa méthode depuis ses débuts, s'ancrer dans une réalité précise, les stages agricoles pour l'apprenti, les marins pêcheurs pour Tempête. Donc Anders devra apprivoiser cette population, enterrer sa supériorité citadine et, en apprenant le groenlandais, s'insérer petit à petit et se faire accepter. Finalement, ce qu'il y a de plus pur dans ce film, ce n'est pas l'argument fictionnel avec les étapes classiques de l'intégration, mais plutôt le côté document, justement le quotidien des Inuits, notamment les virées de pêche, de chasse, leurs problèmes aussi, notamment l'alcoolisme des parents, qui explique pourquoi beaucoup d'enfants, comme celui que le protagoniste protège, soient élevés par leurs grands-parents. Pure, cette démarche de Collardet. À ce propos, je vous conseille cet article dans Télérama qu'il a suivi jusqu'à Tinitekilak pour montrer son film, Laurent.
Oui, ce qui est, je pense, le plus intéressant, c'est cette espèce de glissement progressif groenlandais qu'on a, qui passe de la vision, alors assez traditionnelle et peu finalement intéressante, du pédagogue qui vient transmettre, au fait que, eh bien, progressivement, c'est le Groenland qui va, qui va transmettre au pédagogue ses réalités, comme vous le disiez, pour le moins complexes, parfois difficiles, parfois douloureuses, et qui transcendent la carte postale de très très loin.
D'ailleurs, Anders, l'instit est resté là-bas, il vit avec une Inuit, et il attend un enfant, voilà. 47 déserteurs et trains de vie au pluriel, deux nouveaux films d'un cinéaste infatigable. Paul Vecchiali, décor dénudé et personnages se confessent et se dévoilent, et les deux films, Laurent, se partagent les mêmes acteurs.
De Vecchiali, sinon rien, ben ça fait du bien. Le premier, Les Sept Déserteurs, vous n'en parlerez pas, Jean-Pierre Androuvon, dans votre ouvrage, parce que c'est un film sur la guerre, mais elle n'est ni datée, ni située, on ne sait pas où c'est, on ne sait pas quand est-ce que c'est, on ne connaît pas l'ennemi, donc c'est pas pour vous. Voilà, c'est un film de guerre, mais qui n'est pas pour vous, mais qui a quand même un très très beau film.
On verra pour la réédition. Quand même,
d'accord, hein. je vous le conseille, moi je vous conseille vraiment d'aller le voir. Et puis l'autre film, effectivement, Train de vie. Écoutez, je vais pas faire de jeu de mots, mais l'égérie actuelle, il en a eu d'autres, comme Daniel Darieux, de Paul Vecchiali, depuis un certain nombre de films. Elle s'appelle Astrid Adverbe. Je trouve ce nom extraordinaire et qu'il est parfaitement signifiant. Quand on s'appelle Adverbe, on ne peut tourner que dans des films qui donnent à ce point-là la parole à ses acteurs et qui dit à ce point-là l'importance de la parole, qu'elle soit amoureuse, guerrière, amicale, tout ce qu'on voudra. Oui, on parle énormément dans ces films, face caméra même dans Train de vie, et c'est jubilatoire pour le spectateur jusqu'au moment où Paul Vecchiali arrive et dit cette fois c'est fini, on arrête le film. Mais ça aussi c'est de la parole, et ça aussi c'est de la reprise de parole de la part d'un cinéaste décidément qui nous étonnera toujours.
Ce qui est moins jubilatoire, c'est qu'il ne reste que 30 secondes pour évoquer la reprise d'Hervé Leroux, disparu depuis 96. Un réalisateur partait sur les traces d'une ouvrière des usines Vendeur. Il tombe amoureux d'une photo, d'une femme sur une photo.
Mais oui, qui a fait le tour du monde à travers un petit film de 10 minutes.
Il faut aller voir ce film,
et comme il ne passe pas forcément près de chez vous, il est aussi aux éditions Montparnasse en DVD.
De cadeaux, Laurent, on va commencer par quoi?
Je vous laisse donner celui-là.
Est-ce que vous connaissez ce livre, Pied de Pierre Conessa, Hollywood? Est-ce que vous le connaissez? Hollywood, machine à fabriquer des ennemis. Cinéma hollywoodien, outil indispensable de persuasion et de propagande massive. Passionnant livre de cet agrégé d'histoire et ancien élève de l'ENA qui donne des cours à Sciences Po. Ça va.
Impeccable. Je m'en servirai pour la réédition.
D'accord. La guerre. La guerre au cinéma, votre encyclopédie.
Mon coup de cœur pour vous, absolument, c'est Le Paris de François Truffaut, de Philippe Lombard, aux belles éditions Parigramme. C'est un livre qu'il faut offrir aux gens que vous aimez parce que c'est un film sur l'amour de Paris, l'amour de Truffaut. Un livre sur l'amour de Paris, l'amour de Truffaut. Vous savez que Truffaut a été un grand cinéaste de Paris, pas seulement, mais il a été d'abord un Parisien, Parisien, plutôt de la place Pigalle. Et vraiment, vraiment, c'est le plus bel album de cinéma qui a été publié depuis quelques temps.
Je voudrais saluer chaleureusement deux fervents auditeurs à Dakar, c'est Laurence et William.
Salut à vous.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci Jean-Pierre Andrevon, la guerre au cinéma, à la télévision, chez Vendémiaire, merci. Avec Édouard Loun, ce cinéaste des âmes inquiètes. Futuropolis avec Nadar, merci Julien Frey, merci à tous les deux. On vous confie les clés du générique.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma.
Il y a des réalisateurs et des acteurs.
Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs.
Les prises de vue sont des prises de son.
Sporto Cantès a écrit la musique du générique.
Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez.
Martine Messonnier s'est occupée de la préparation.
C'est une émission réalisée par Anne Venfeld.
Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas.
Et moi, Julien Frey, j'y étais.
Et moi, Jean-Pierre Andrevon, j'y étais aussi.